Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 31 octobre 2023 et je vais pas vous faire le tralala comme quoi c'est Halloween, blablabla, gna. Si je me souviens bien, à la fin du mois de juillet dernier, l'enthousiasme était tel que l'ensemble des intervenants étaient prêts à vendre leur mère pour pouvoir acheter des actions. Je me souviens même avoir dit et écrit quelque part que la plupart des targets prévus pour 2023 étaient atteints et que nous manquions d'objectifs. En faisant un fast-forward à aujourd'hui, je me demande réellement ce qui nous est arrivé. Nous sommes passés de l'intelligence artificielle est notre amie et va résoudre tous nos problèmes à... quelle intelligence déjà ? L'appétit au risque a fondu comme la neige du glacier du Théodule et soudainement les targets de 2023 font à nouveau du sens. Hier, les marchés ont rebondi. Il faut le dire vite parce que lorsqu'on regarde les futurs ce matin, on a l'impression que les acheteurs regrettent déjà d'avoir acheté et sont déjà en train de se précipiter vers la sortie. Clairement, nous avons vécu un rebond technique. Je dis ça parce que lorsqu'on prend le temps de lire la presse du matin, on a plutôt envie de courir à la pharmacie acheter des antidépresseurs que chez le caviste pour acheter du Dom Pérignon parce que la séance d'hier était une grande occasion qu'il fallait fêter. Alors dans l'autre, les acheteurs sont revenus parce que le pétrole rebaisse encore un peu. En effet, nous sommes soulagés de voir que le conflit n'est pas en train de s'étendre. Alors ça, je dois dire que j'adore, hein, parce que personnellement, je ne suis pas un expert en géopolitique, ni en conflit israélo-palestinien, et encore moins en guerre en tout genre. Mais disons que je crois que prendre une décision d'investissement le lundi matin, parce que le week-end était moins pire que prévu, vous comprenez que les Iraniens n'ont pas encore mobilisé l'armée et les armes atomiques, j'imagine. Prendre ce genre de décision est un peu limite, hein. Ça n'est pas comme si les pourparlers de paix avaient bien avancé et que l'on avait commencé la reconstruction des hôpitaux à Gaza. Non, non, là, hier, il y a des gars qui sont sortis de leur maison. Ils sont sortis sur le porche de la maison, vêtus d'une combinaison anti-radiation, et qui, voyant que le facteur livrait le courrier en short, se sont dit « Ah non, pas de guerre atomique aujourd'hui, au Proche-Orient ce matin en tout cas, je vais donc aller acheter deux ou trois actions pour jouer le rebond ». Non, bon, d'accord, j'exagère un poil, mais tant que ça, pas tant que ça réellement, parce que hier, rien n'a changé par rapport à la dépression de vendredi soir. Les indices sont toujours au plus mal, le niveau de bearishness est à son top, la peur est omniprésente, et en plus, dès qu'une société publie ses chiffres, on ne voit que le verre à moitié vide et on se concentre sur ce qui va mal, sur ce qui a été mal et qui va être horrible dans le futur. Encore une fois, il est absolument incroyable de voir comment on nous a retourné le cerveau. Fin juillet, une société venait annoncer son trimestre avec des chiffres de merde, une croissance pourrie et un bénéfice en dessous des attentes des analystes, mais annonçait son intention d'investir dans l'intelligence artificielle sans trop préciser comment, le titre prenait 18% after close. Aujourd'hui, tu viens publier des chiffres meilleurs que les attentes dans tous les domaines, tu annonces de nouveaux contrats, mais lors de la conférence de presse post-résultat, tu annonces que tu t'es cassé un ongle et que sur le prochain trimestre, ça pourrait être compliqué, hein. Pourrait, parce que t'es même pas sûr, en fait. Dans la seconde qui suit, l'action de ta boîte sera en PLS et perdra au minimum 10% avec un risque de contagion sur tout le secteur. Et si vous ne me croyez pas, regardez ce qui s'est passé sur ON Semiconductor et Latitier. Contagion sur tout le secteur des semi-conducteurs et en plus sur les voitures électriques. Oui, parce que ON, fournit une chier de chips au secteur des voitures et qu'hier, en plus d'annoncer qu'ils allaient tous mourir dans d'atroces souffrances, ils ont déclaré qu'un fabricant de voitures électriques qu'ils ne nommeraient pas avait réduit ses commandes pour l'an prochain. Alors Tesla n'a pas trop liké la news sur X et le titre d'Elon Musk s'est repris 5% dans les dents et termine au plus bas depuis le mois de juin et $100 sous ses plus hauts du 6 juillet. Bref, Musk a perdu 7 milliards hier soir. Ce qui est le plus frappant de ces derniers jours, c'est clairement le fait que les intervenants sont passés de l'excessivement optimiste de fin juillet au fondamentalement dépressif. C'est encore plus impressionnant lors des publications. Par exemple, hier, McDonald's publie des chiffres meilleurs que les attentes et explique qu'ils surperforment le business de la restauration. Enfin, pour autant qu'on considère que McDo est un resto. Parce que les consommateurs changent leurs habitudes et se recentrent sur ce qui est moins cher. Alors disons que perso, le jour où je dois restreindre mes dépenses de restauration, je préfère doubler la dose d'Ozempic avec des flocons d'avoine et de l'eau pour faire gonfler plutôt qu'aller manger au McDo parce que c'est moins cher. Mais bon, là n'est pas le sujet. McDo a fait mieux que les attentes et le titre montait de 1,7%. 1,7% parce que t'as fait mieux que les attentes dans un marché pourri. Et pendant ce temps, l'autre boîte qui fait aussi mieux que les attentes, mais qui pense que la suite de l'année sera compliquée se fait défoncer de 20%. Et pire, nous serions au mois de juillet si Onsemi avait dit « On fait mieux que les attentes, la suite de l'année sera compliquée, mais on investit dans l'intelligence artificielle avec plein de smileys qui rigolent et des biceps gonflés derrière », le titre aurait fait 34% de hausse au moins. Vous voulez un autre exemple ? Eh bien, écoutez, il y a Sophie, hein. Sophie, la fintech américaine, qui a pulvérisé les attentes hier soir. Mais non content de ça, ils ont annoncé des perspectives phénoménales. Bon, pas comme celle de Nvidia au printemps, mais canon quand même. Et vous pensez que le titre a fait quoi ? Il est monté de 25%, de 12%. Non, 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 il a terminé en hausse de 1%. 1%. Les mecs, ils ont fait tout juste, ils sont optimistes, mais ça suffit pas encore. Tout ça pour vous dire que le rebond d'hier, eh ben, il pue le pâté pas frais, et que même mon chien n'en voudrait pas, et il va falloir faire mieux que ça si on veut rameuter les bulls pendant un peu plus de 24 heures. Ce matin, on va dans tous les sens en Asie, lorsque je me suis levé sans bousculer ni réveiller personne, le Japon était en pleine dépression dans l'attente de l'annonce de sa banque centrale. Sans compter que les PMI chinois ont été publiés en dessous des attentes, et que les marchés étaient surpris de cet état de fait. Alors là encore, c'est magique, hein. Les gens sont encore surpris que la Chine soit dans le coma et que ça redémarre pas aussi vite que prévu. On a l'impression qu'à chaque publication chinoise, on s'attend à que ce soit le temps du reversal, comme si la Chine avait la capacité de retourner son économie en aussi peu de temps qu'il ne faut aux Israéliens pour transformer Gaza en parking souterrain avec un centre commercial au-dessus. Le marché a donc été surpris par les mauvais chiffres chinois, du coup Hong Kong étant plongé de 1,7% et la mère patrie chinoise recule de 0,4%. En revanche, au Japon, on teste la stratégie de la balle magique. Ce matin, le Nikkei était au bord du suicide dans l'angoisse de l'annonce de la banque centrale japonaise qui sont finalement sortis du nid et les dovish sont toujours dovish même s'ils ont très envie de tourner la veste. La trouille, ça ne se commande pas. Le Nikkei a donc fait un 180 degrés et est reparti à la hausse après avoir appris que les taux ne resteraient bas. Et pour l'instant, pendant ce temps, l'or est à 2004, hein, pas 2400. Le Bitcoin est à 34 200 et le pétrole continue de se faire défoncer. Oui, parce que la guerre ne s'étend pas au Moyen-Orient et que du coup, pas de crise pétrolière. Le baril est à 82 $ et des poussières, et ce, même si les clowns de la World Bank ont encore parlé. Et ça, ça vaut son pesant de cacahuètes, parce que hier, la World Bank ont annoncé que si le conflit s'étendait au Moyen-Orient, le baril pourrait monter de 76%. Ces types sont juste des génies. Tout d'abord, il y a le seal conflit, démontrant clairement que le mec n'en a aucune idée et qu'il va juste à la pêche parce qu'il devait rendre un rapport, mais qu'il ne voulait pas surtout pas se mouiller. Ensuite, il y a les 76%. Alors là, c'est un mystère. Hein. Pourquoi 76% et pas 92 ou 87, voire même 56, personne ne sait. Bon, peut-être parce que 76% de hausse, ça fait plus ou moins 150 $. Mais alors pourquoi 150 $ et pas 180, on voit où on en est. Toujours est-il que ça fait quand même plaisir parce que le marché a vu passer la nouvelle, il a haussé les épaules et est retourné shorter le pétrole. Je dois dire que l'on ne se lasse pas des publications inutiles de la World Bank et on se réjouit déjà de celle du FMI qui devrait arriver d'ici 48 heures environ, puisqu'en général, ils font un copier-coller du travail de la World Bank. Dans les nouvelles du jour, on notera qu'Apple baisse les prix de ses MacBook Pro et annonce l'arrivée des nouvelles puces M3, que l'inflation en Allemagne était en chute libre hier, enfin, pas vraiment en chute libre, mais c'est toujours chouette d'écrire ça, que chez Panasonic, on a fait un profit warning sur les batteries et qu'un de leurs gros clients, c'est Tesla. Dans le procès FTX, SBF colle la faute sur son top management. Lui est innocent, tel l'agneau qui vient de naître en face d'une couscoussière. Autrement, on attend aussi qu'Israël refuse tous, qu'Israël refuse tout cessez-le-feu, sans surprise. Et puis, il y a aussi une étude qui dit qu'à cause du changement, réchauffement climatique ou changement climatique, l'industrie du shipping pourrait perdre 10 milliards par année d'ici 2050. Alors, les gars, ils savent même pas ce qui va se passer demain. Mais alors, par contre, 2050, là, ils sont balèzes. Et puis, pour le reste, on se chauffe pour la fête de demain soir. La plupart des experts ne s'attendent à rien sur les taux et un ton conciliant de la part de Powell. Certains experts estiment même que le cycle de hausse est terminé et que la hausse des rendements équivaut à une hausse de 100 basis points sur les taux directeurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Goldman Sachs. Enfin, tout ça pour vous dire que l'ambiance n'est pas top et que le rebond a l'air assez anémique pour le moment. Mais tout peut changer d'ici jeudi soir si l'on arrive à compter sur un coup de pouce de la Fed et d'Apple. Pour ce qui est des chiffres du jour, nous aurons la journée à Manu et Bruno, puisque la France va publier son PIB et CPI, et que les deux génies des grandes écoles vont en profiter pour se faire reluire devant les médias. Et peut-être même que cet abruti de ministre de l'économie va présenter son nouveau bouquin de cul. Il y aura aussi le PIB et le CPI en Europe. Quant aux USA, il y aura le Chicago PMI et la confiance du consommateur. On ne va pas en tirer des plans sur la comète, mais on en parlera demain. Du côté des sociétés, il y aura les chiffres de Pfizer, Caterpillar, Marathon, Amgen et BP avant l'ouverture. Et puis ce soir tard, il y a AMD qui va se faire défoncer parce qu'ils vont annoncer qu'il y aura Noël en décembre et que ce ne sera pas facile. Pour le moment, les futurs sont en baisse de 0,38% à cause des semi-conducteurs qui ne vendent plus rien et des voitures électriques qui ne se vendent plus non plus. Les fabricants d'antidépresseurs, en revanche, eux, sont en hausse. Excellente journée à tous et à demain.